France Culture.
Le journal est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. Face à l'agressivité des États-Unis, le Canada veut renforcer ses liens avec l'Europe. Le nouveau Premier ministre McCarney affiche son entente avec Emmanuel Macron à Paris. Analyse dans un instant de Frédéric Seyss. Sur fond de sanctions européennes contre des chefs militaires rwandais, le Rwanda rompt ses relations diplomatiques avec la Belgique. Nous joindrons notre correspondant à Bruxelles pour en savoir plus. Inspection en cours à Notre-Dame de Bétarame, même si l'établissement visé par une vague de dénonciations n'a fait l'objet d'aucune remontée récente. Dans ce journal, nous entendrons de nouveaux témoignages concernant des sévices et violences physiques dans un autre établissement catholique, le Collège Saint-Pierre, au Relecq-Carruon, dans le Finistère. Face à la hausse de la mortalité infantile en France, une vingtaine de députés apportent leur soutien à des journalistes et des soignants qui dénoncent la situation. Ils interpellent le gouvernement. Explication de Jeanne Serrin. Il est de coutume pour les chefs de gouvernement canadiens d'effectuer leur première visite à l'étranger chez le voisin américain. Mais le successeur de Justin Trudeau a fait une entorse à la règle. Mark Carney, qui a pris ses fonctions vendredi, a choisi de venir à Paris dès aujourd'hui avant de se rendre demain à Londres. Le Canada ne goûte pas du tout le nouveau cap pris par les États-Unis. Les menaces d'annexion, la guerre commerciale, il cherche donc à renforcer ses liens avec les pays européens. Bonsoir Frédéric Seyss.
Bonsoir.
Le Premier ministre canadien a déjeuné avec le président Emmanuel Macron et ensemble ils ont réaffirmé leur soutien à l'Ukraine. Au cours de leur déclaration, Frédéric, le nom de Donald Trump n'a jamais été cité, mais il était dans tous les esprits.
Oui, une sorte d'alliance des victimes de la guerre commerciale imposée par Donald Trump. Mark Carney est venu chercher à l'Élysée du soutien face à son agressif voisin. Écoutez le Premier ministre canadien anglophone qui s'exprime dans un français un peu hésitant.
Nous savons que c'est la collaboration économique, pas les affrontements, qui nous permet de bâtir des économies fortes. C'est plus important que jamais pour le Canada de renforcer ses liens avec nos alliés fiables comme la France.
Allié fiable, une pique transparente envers l'imprévisible Donald Trump, le président américain, qui impose des droits de douane de 25% au Canada et qui menace la France d'une surtaxe massive sur ses exportations de vins et champagne. Alors France et Canada, même combat, semble dire Emmanuel Macron.
Je crois que l'un et l'autre, nous croyons en effet que le commerce équitable qui respecte les règles internationales est une bonne chose pour la prospérité de tous. Et il est à coup sûr plus efficace que les tarifs qui créent de l'inflation et abîment les chaînes de production et l'intégration de nos économies.
Alors, durant ces courtes déclarations à l'Élysée, les menaces d'annexion du Canada par Washington ne sont pas évoquées. Mais le président français fixe un objectif commun, là encore, en allusion à Donald Trump.
Défendre ensemble, au fond, un ordre international juste. C'est-à-dire quelque chose qui ne soit ni la loi du plus fort, ni l'isolationnisme.
Et dans cette optique, le Canada réfléchit même à annuler ses futurs achats d'avions de chasse de fabrication américaine. Pourquoi pas des Rafales made in France? La défense était aussi au menu du déjeuner de travail à l'Élysée.
Frédéric Seyss, alors que Donald Trump et Vladimir Poutine doivent se parler demain au téléphone au sujet de l'Ukraine, le Royaume-Uni fait savoir que plus de 30 pays devraient être impliqués dans la force de maintien de la paix en Ukraine en cas d'accord mettant fin à la guerre avec la Russie. Les capacités de contributions varieront, mais il s'agira d'une force significative avec un nombre important de pays fournissant des troupes, précise le gouvernement britannique. L'Europe entend se réarmer, mais peut de moins en moins compter sur les Américains pour le faire. Les armuriers européens doivent donc pouvoir prendre la relève, produire beaucoup plus et plus vite. Le missilier franco-britannico-almano-italien MBDA, l'un des leaders mondiaux en matière de missiles, sera sans doute mobilisé. Éric Bégala s'est donc rendu sur l'un des sites de production de ces missiles en France.
Ça, c'est le départ d'un missile anti-char de type Acheron. Mais les missiles MBDA en fait de toutes sortes, des courts, des longs, des anti-aériens, des anti-chars, des anti-navires, etc. Et le cœur battant de cette industrie, c'est ici, à Selles-Saint-Denis, en pleine forêt de Sologne. Un site discret, entouré de bois, et où on ne nous laissera rien enregistrer. Téléphones portables sont interdits, la moindre étincelle ou rayonnement pourrait mettre le feu aux poudres, littéralement. Nous sommes ici en zone dite pyrotechnique. Olivier est l'un des cadres du site.
On a des matières actives qui vont pouvoir être utilisées dans le cadre d'un missile, soit pour propulser un missile jusqu'à un objectif, soit l'utiliser comme explosif. On va avoir une charge militaire qui va être embarquée et qui va détonner au contact soit d'un bâtiment, soit à proximité d'un objectif qui peut être un avion de chasse. C'est la fusée de proximité qui va exploser et qui va être la charge de ce missile.
Autre site de MBDA, à 50 km plus au sud, à Bourges, 10 000 m² d'atelier de montage, c'est là qu'on construit ces missiles.
Donc là, vous rentrez dans une entité qui s'appelle production mécanique électromécanique.
Jérôme est responsable de la production.
Notre mission, c'est de produire tout ce qui est pièces mécaniques et équipements électromécaniques de nos missiles, de nos lance-missiles. Et système.
Le site de Bourges n'est pas à proprement parler une usine avec chaîne de montage, etc. Chaque missile est pour ainsi dire assemblé à la main.
Il y a un an, vous le savez, on a une demande liée à l'économie de guerre de faire plus vite sur un certain nombre de missiles. En gros, il faut doubler nos capacités industrielles sur un horizon très court. Donc ça nous demande de lancer un plan de transformation comme on n'a jamais eu chez MBDA.
En un an, la production de missiles de MBDA a été augmentée d'un tiers et devrait avoir doublé d'ici fin 2025. Et les carnets de commandes se remplissent à toute allure. Vendredi dernier, France, Grande-Bretagne et Italie annonçaient l'achat conjoint de 218 missiles antiaériens chez MBDA.
Les incertitudes géopolitiques et les tensions commerciales pèsent sur les perspectives économiques, s'inquiète l'OCDE. L'Organisation de coopération et de développement économique revoit à la baisse les perspectives de croissance de nombreux pays pour 2025, dont les États-Unis. En plein bras de fer commercial avec Washington, la Chine mise sur la consommation pour essayer de relancer son économie. Depuis la fin du Covid, la consommation intérieure est en berne. Alors, le régime communiste annonce un vaste plan pour inciter les Chinois à consommer à nouveau. Cette fois, Pékin prévoit des mesures fortes mais coûteuses, comme l'augmentation des salaires, Sébastien Berriot.
La relance de la consommation interne est désormais hissée au rang de priorité absolue pour le régime, considéré comme le seul levier possible pour redresser l'économie chinoise, alors que les exportations sont devenues trop incertaines en raison des menaces commerciales de Donald Trump. Et pour inciter les Chinois à revenir dans les magasins, les autorités décident de s'attaquer pour la première fois à la question des bas salaires. Aucun chiffre précis n'est donné, mais le gouvernement dit vouloir œuvrer pour une augmentation raisonnable du salaire minimum. On sait aussi que les Chinois ont tendance à beaucoup consommer lors des périodes de vacances. Alors le régime veut encourager la prise de congé. Li Chunlin est l'un des responsables de la Commission nationale du développement et de la réforme.
Nous voulons faire en sorte que le système de congés payés soit davantage mis en application, avec à la clé un renforcement des contrôles. Préciser qu'il n'est pas permis d'allonger le temps de travail des travailleurs quand cela n'est pas conforme à la loi. Et encourager aussi la mise en place de vacances de printemps et d'automne pour les écoles primaires et secondaires.
Une politique coûteuse qui va aggraver les déficits de la Chine, mais le Parti communiste veut tout faire pour faire décoller la consommation. Preuve en est, le gouvernement a décidé de doubler cette année son enveloppe destinée aux coupons de réduction de l'État. 40 milliards d'euros d'argent public débloqués pour faire baisser les prix à l'achat de l'électroménager ou encore des smartphones.
Sébastien Berriot, notre correspondant à Pékin. Le Rwanda rompt ses relations diplomatiques avec la Belgique. Bruxelles ne cesse de dénoncer l'avancée des rebelles du M23 soutenus par Kigali en République démocratique du Congo. Et les relations entre la Belgique et son ancienne colonie rwandaise se sont envenimées, Fabien Cazot, depuis la prise de la grande ville de Goma dans l'est de la RDC fin janvier.
Une décision disproportionnée. La Belgique condamne sans ambiguïté la décision rwandaise de rompre les relations diplomatiques entre les deux pays. Le Rwanda dénonce de son côté des illusions néocoloniales belges, vivant très mal le fait que l'ancienne puissance coloniale prenne parti contre la guerre qu'il mène dans l'est de la République démocratique du Congo, elle aussi ancienne colonie belge. Le royaume, toujours à la pointe des critiques visant le régime du président Paul Kagame, paie sans doute aussi le prix de sanctions décidées ce matin par l'Union européenne et réclamée, c'est vrai, depuis plusieurs mois par la Belgique. Ces sanctions visent notamment des militaires rwandais ainsi qu'un responsable du secteur minier local. De son côté, le Rwanda donne 48 heures aux diplomates belges installés à Kigali pour faire leurs valises, un mois après la suspension des programmes d'aide au développement que la Belgique menait dans le pays.
Fabien Cazot, correspondant de France Culture à Bruxelles. C'est une première en 30 ans. Les services de l'éducation nationale ont entrepris aujourd'hui l'inspection de Notre-Dame de Bétaram, établissement au cœur d'une vague de dénonciations d'agressions sexuelles et de violences au sein de l'enseignement catholique. L'inspection doit durer 4 jours. Elle vise les deux sites de l'institution, à l'Estelle-Bétaram et Igon, dans les Pyrénées-Atlantiques. Dans le sillage de l'affaire Notre-Dame de Bétaram, d'anciens élèves d'autres établissements catholiques dénoncent à leur tour des violences physiques ou sexuelles. Ce matin, nous avons partagé des témoignages concernant le collège collège catholique Saint-Pierre, au relais Kerion, près de Brest, dans le Finistère. Constitué en collectif, 115 élèves dénoncent des sévices et violences physiques commis par des enseignants et des religieux des années 1960 jusqu'au début des années 2000. Enseignante à la retraite, Jocelyne a donné des cours d'anglais dans ce collège en 1986. Elle avait alors 30 ans. Témoin de violence, elle explique avoir tenté d'alerter, mais en vain.
Un jour, en étude, un enseignant fait irruption dans ma classe. Il distribue des copies et sans que je comprenne ce qui se passe, tout d'un coup, il décoche du tranchant de la main un coup dans le visage de ce garçon. Et donc, le garçon s'affale sur le pupitre. Le professeur sort, me laisse me débrouiller avec ce garçon. J'ai un mal fou d'ailleurs à lui faire un petit peu redresser la tête. Je vois qu'il a la pommette bien abîmée et il est mortifié, il veut même pas que je m'occupe de lui, enfin bon, c'est un petit peu compliqué. Donc je fais le nécessaire quand même pour qu'il aille se faire un petit peu soigner, alors pas d'infirmerie bien entendu, une cantine. Et à la sortie, m'attend ce professeur. Il me demande si ça va être visible quand le garçon va rentrer à la maison. Est-ce que ses parents vont voir qu'il a été frappé? Et je réponds, ça, clairement. Et là, excusez le langage, mais il me dit, merde. Signe que quand même, les temps avaient un peu changé. Frapper, oui, mais que ça ne soit pas trop. Avec le recul, je me dis que la seule chose que j'aurais dû faire, c'est foncer à la gendarmerie. Et bien, le pire, c'est que je n'y ai jamais pensé. Je me suis contentée d'en parler énormément autour de moi, à mes collègues, à forcément une forme de hiérarchie. Je pense que j'en ai beaucoup parlé. Mais voilà, ça, c'était l'être morte, en fait. Mes amis du collectif, ils m'ont dit, mais de toute façon, ne t'en veux pas. Ça n'aurait servi strictement à rien. Tout le monde était de mèche. C'est-à-dire que là aussi, il faut remettre dans le contexte de tas de gens, des politiques. Le maire, un des enseignants les plus terribles, était maire du village d'à côté. Que de toute façon, ça n'aurait servi à rien. Tout aurait été étouffé, c'est évident.
Dans les colonnes de Ouest-France, le 6 mars dernier, le directeur diocésien de l'enseignement catholique du Finistère explique que ce collège Saint-Pierre était connu pour être plus un établissement de redressement assez dur qu'un établissement éducatif. Didier y a été scolarisé à partir de 1977. Il accuse aujourd'hui le diocèse d'avoir couvert ces violences.
Je ne conçois pas que des gens comme ça puissent s'autoriser des choses pareilles sans que ce soit couvert. Couvert par la direction, couvert par le diocèse. D'ailleurs, la réputation de cet établissement était son principal outil marketing. C'était un peu l'école de la dernière chance pour un certain nombre d'élèves. Et si on appelait localement ces gens-là les frères Quatre-Bras ou les frères Tape-Dur, c'est que voilà, il fallait que ça se sache. On allait là-bas pour nous dresser. Et c'est d'autant plus injuste qu'en fait la plupart de ces gens-là, et moi j'ai la photo de classe, on a tous l'air de gamins, quoi. On a entre 12 et 13 ans. Pour la plupart, on n'est pas du tout rétif à l'autorité, on est juste des gamins un peu en décrochage, en difficulté. Je me suis aperçu quand même que des gens ont été diagnostiqués, ce qui n'était pas à l'époque, 10 troubles de l'attention, troubles du spectre autistique, plein de choses qui aujourd'hui sont prises en charge. Alors effectivement, à l'époque, on ne connaissait sans doute pas, mais de toute façon, même sur des enfants normaux, une violence pareille sur des élèves en difficulté, quelle que soit la nature de leur difficulté, c'est pas admissible. Donc c'est là que je dis que c'était systémique. Voilà, ça partait de la direction jusqu'au professeur. Et ça a perduré pendant des années. Il n'y a pas eu un signalement. Alors, il n'y a sûrement pas de collusion entre l'État, mais il y a une déficience du contrôle de l'État quand même sur une école sous contrat. La résultante de tout ça, c'est que pendant 45 ans, moi j'ai mis un mouchoir là-dessus, puisque personne ne me croyait. On ne peut pas croire un truc comme ça. On ne peut pas, ce niveau de violence-là est incroyable, même à l'époque.
Le témoignage de Jocelyne et de Didier ont été recueillis par Julie Paco. Le collectif d'anciens élèves prépare un signalement au procureur de la République. Il sera envoyé dans les prochains jours. Le diocèse de Quimper et Léon et la direction de l'enseignement catholique du Finistère ont réagi par communiqué. Ils se disent choqués par la violence imposée à ces jeunes et par les méthodes employées dans cet établissement, totalement contraires aux valeurs de l'Église et de l'enseignement catholique. Ils souhaitent rencontrer le collectif et contribuer pleinement, disent-ils, à la reconnaissance des faits. Une petite vingtaine de députés de la droite au Parti communiste joignent leur voix à celle de journalistes d'investigation auteurs d'une enquête sur la mortalité infantile. En France, sur 1000 naissances, il y a en moyenne 4,1 décès au cours de la première année de vie. Avec ce taux, notre pays se classe à la 23e place sur les 27 États membres de l'Union européenne. Le constat est d'autant plus alarmant que ce chiffre ne cesse d'augmenter depuis 2012. Bonsoir Jeanne Serrin.
Bonsoir Aurélie, bonsoir à tous.
Dans une tribune publiée dans Libération ce week-end, plusieurs députés donc appellent le gouvernement à réagir et à apporter enfin une réponse politique.
Oui, ils sont élus du Finistère, de Martinique, d'Essonne ou encore du Lot. Le Lot, c'est un de ces territoires où la mortalité néonatale explose. 5,1 décès sur 1000 naissances. Dans ce département, 3 maternités ont fermé ces 15 dernières années. Il n'en reste plus qu'une. L'éloignement géographique contribue à cette hausse des morts infantiles. Mais d'autres raisons sont soulevées. Aurélien Pradier, député de ce territoire rural, souligne notamment le manque d'accompagnement des familles.
Il y a quelques décennies, on faisait plus d'efforts pour expliquer à une maman ou un papa comment nourrissait un enfant, les surveillances qu'il fallait avoir. Et aujourd'hui, on s'est engourdi dans une espèce d'évidence qui n'existe plus, et avec une conséquence claire qui est la mortalité infantile qui augmente.
Dans cette tribune, les signataires appellent donc les pouvoirs publics à l'adoption d'un grand plan national pour réévaluer les fermetures de maternité, pour ouvrir des lits en périnatalité, pour mieux prendre en charge les bébés prématurés ou encore pour renforcer les moyens de la protection maternelle infantile, la PMI. Ils exigent enfin de mettre la France au niveau de ses voisins européens et d'adopter un registre des naissances, sorte de tableau de bord permettant de suivre dans la durée les accouchements. Aujourd'hui, s'inquiète le député socialiste d'Ardèche, Hervé Solignac, nous n'en disposons pas.
Personne n'est en capacité de dire aujourd'hui quelle est la principale incidence. Donc il faut arriver à faire ce travail fondamental qui est la première brique d'une vraie politique publique pour revenir à des taux de mortalité infantile qui sont moins catastrophiques que ceux qu'on connaît aujourd'hui.
En Ardèche, rappelle le député, faute de moyens suffisants, les femmes sont bien souvent contraintes d'accoucher et d'être suivies dans les départements d'à côté.
Jeanne Serrin, comment va l'hôpital public ? 5 ans après le confinement, l'un des événements les plus marquants de la crise du Covid-19, la Fédération hospitalière de France tire un bilan légèrement plus encourageant que ces derniers mois. Alors que 3 millions de séjours hospitaliers n'avaient pas pu être honorés quand tout le système s'était figé pour lutter contre la pandémie, cette dette de santé publique est doucement en train de se résorber. Bonsoir Tara Schlegel.
Bonsoir Aurélie, bonsoir à tous.
La FHF s'appuie sur un baromètre réalisé pour la deuxième année consécutive auquel ont répondu la moitié des établissements publics de santé et les 2/3 des CHU. Elle s'appuie aussi sur un sondage réalisé auprès des Français qui montre, Tara, leur peur de se faire hospitaliser.
Effectivement, l'enquête a interrogé fin février 1500 personnes et selon cet échantillon représentatif de la population adulte, le sentiment est quasi unanime. 92% des sondés disent que le système hospitalier est menacé dans son existence. Adeline Merceron est directrice adjointe chez Ipsos.
Ce sentiment donc, que l'hôpital est en danger, ça génère quoi chez les Français ? Ça génère de la colère. 89% des Français ils sont en colère face au manque de moyens qui sont aujourd'hui alloués à l'hôpital public et aux conditions de travail des personnels soignants. Et puis, cette peur aujourd'hui d'aller se faire soigner à l'hôpital, c'est 76% des Français qui ont peur de ne pas pouvoir accéder à des soins de qualité et 65%, donc presque les 2/3 des Français, qui ont peur de devoir être hospitalisés au vu de la situation actuelle des hôpitaux. C'est même 1/4 des Français, 24%, qui sont tout à fait d'accord avec cette idée-là.
Donc un chiffre à retenir, hein, les 2/3 des Français qui ont peur d'être envoyés à l'hôpital public pour faire des soins, subir des soins.
Et pourtant Tara, selon le baromètre de la FHF cette fois, la situation s'améliore doucement à l'hôpital.
Effectivement, d'abord globalement l'activité reprend, même si on n'a pas encore rattrapé tous les actes reportés au moment du Covid. Et surtout, il y a 2 lueurs d'espoir. Vincent Olivier est responsable adjoint du pôle offre de la FHF.
Les difficultés sont moindres, notamment pour le recrutement des infirmiers, où on voit que le nombre de postes vacants a diminué entre 2023 et 2022, passant de 5,7% à 3% en 2023. C'est pareil sur les aides-soignants. Côté absentéisme, donc l'absence de professionnels qui sont dans l'établissement, on a également une amélioration, puisque l'on était à 11,1% en 2022 et on passe à 9,5% en 2023, signe d'une amélioration, mais qui ne doit pas cacher qu'il y a toujours des difficultés qui persistent à l'hôpital public aujourd'hui.
Donc un petit peu moins d'arrêts maladie, un petit peu moins de postes vacants et cette année, 7 hôpitaux sur 10 envisagent aussi de réouvrir des lits en médecine et en soins de suite. C'est donc une petite embellie à soutenir d'urgence financièrement, a plaidé ce matin la FHF, car le déficit des hôpitaux publics devrait atteindre pour l'année dernière 2,8 milliards d'euros.
Merci Tara. Occupée depuis 3 mois par plusieurs centaines de jeunes migrants, la Gaîté Lyrique va être évacuée. L'ordre en a été donné par le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Les occupants sont appelés à quitter les lieux avant demain. Le collectif qui défend les jeunes migrants est rassemblé en ce moment devant la salle de spectacle parisienne. Il demande que ces jeunes, qui affirment être mineurs, se voient proposer des solutions pérennes d'hébergement. Demain mardi, le temps sera généralement lumineux et agréable. Quelques pluies sont possibles sur le Languedoc-Roussillon, les Cévennes et la Côte d'Azur. Et il y aura du vent sur le sud du Massif central et le sud-est. Encore fraîche le matin sur le quart nord-est et Auvergne-Rhône-Alpes. Les températures seront douces l'après-midi, de 12 à 18 degrés du nord au sud.